Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Urbania et Coup de pouce. Au programme, Maison Saint-Raphaël, une maison de vie, pas une maison de mort. Les Aphrodiques, une arnaque et 5 tendances culinaires à surveiller en 2023. Bonne écoute.
Maison Saint-Raphaël, une maison de vie, pas une maison de mort. Un texte de Laïma à Gérald, paru le 1er avril 2022 dans le magazine Urbania. Ici, c'est une maison de vie, pas une maison de mort. Cette phrase attrapée au vol illustre parfaitement la Maison Saint-Raphaël, un établissement de soins palliatifs et un centre de jour où j'ai eu la chance de passer une journée. Entre bienveillance, yoga et bain thérapeutique, immersion dans une bulle de lumière et de résilience. Prendre soin de la fin de vie. Je marche vers la Maison Saint-Raphaël, où j'ai rendez-vous à 10 heures. Le temps est frais et pluvieux. Je n'ai jamais mis les pieds dans une maison de soins palliatifs. Je suis un peu nerveuse. Je passe la porte de l'établissement baignée de lumière, ayant pignon sur rue dans l'ancienne église Saint-Raphaël, aux frontières des quartiers Outremont et Côte-des-Neiges, à Montréal. Un homme aux yeux lumineux m'accueille. « Tu dois être la journaliste, on t'attendait. Moi, c'est Luc, je suis bénévole ici. Bienvenue. » On m'avait dit que j'allais passer du temps avec Luc, un des bénévoles du centre de jour. Je me sens déjà en confiance. C'est René Fréchette, le directeur général adjoint de l'établissement, qui prend le relais pour l'instant. Il m'emmène à la découverte des lieux. Des œuvres d'art et des plantes ornent chaque recoin. La Maison Saint-Raphaël, c'est un projet qui est né vers 2008, raconte René, alors que l'on parcourt les différents étages. Quand l'église de l'époque a fermé ses portes, les paroissiens et le dernier prêtre ne voulaient pas que ça devienne un projet de condo. Ils cherchaient une vocation qui pourrait servir la communauté. Et c'est là qu'une réflexion s'est amorcée pour choisir de convertir le bâtiment en maison de soins palliatifs. C'est un processus qui s'est échelonné sur une dizaine d'années. Il m'explique que la Maison Saint-Raphaël, qui a finalement vu le jour en 2019, comporte 2 volets principaux, le centre de soins et le centre de jour. Le centre de soins, qui comporte 12 lits, accueille des patients et patientes en phase terminale, sans égard à leurs conditions sociales, leur origine ethnique, leur orientation sexuelle et identité de genre ou leurs croyances religieuses, pour qu'ils puissent s'éteindre dans la dignité, entourés de leurs proches et aidantes naturelles. C'est d'ailleurs dans cette optique que des services médicaux et thérapeutiques entièrement gratuits sont dispensés par une équipe multidisciplinaire pour adoucir le passage vers la fin de la vie. Pour sa part, le centre de jour accueille quotidiennement des personnes en fin de vie qui demeurent encore chez elles, mais aussi leurs proches aidants et aidantes, ainsi que des personnes endeuillées ayant perdu un être cher d'une maladie incurable. Ces derniers peuvent également bénéficier de soins et de services gratuits, comme de la massothérapie, de l'acupuncture, du yoga, ainsi que différents groupes de soutien, même après le décès de leurs proches. Notre approche consiste à accepter la mort comme une étape naturelle de la vie, m'explique René, visiblement passionné par la mission de l'organisme. On a aussi un service de repas offert pour les invités du centre de jour. Par contre, les patients en fin de vie du centre de soins peuvent manger ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Tu veux manger de la crème glacée 3 fois par jour pendant 1 mois alors que tu fais du diabète? On va t'en donner. Ça va nous faire plaisir. » Mon regard est alors brièvement attiré par une porte entrouverte sur une chambre. Sans même arrêter de marcher, j'ai le temps d'apercevoir une femme étendue dans un lit. Elle porte un foulard bleu sur la tête. Son visage est amaigri, ses mains sur sa poitrine. Elle semble calme, les yeux tournés vers une immense fenêtre qui laisse entrer une lumière froide et diffuse. À côté de son lit, un diffuseur d'huiles essentielles laisse échapper une épaisse fumée qui semble l'envelopper. Au moment d'écrire ces lignes, je ne sais pas si cette femme est toujours parmi nous. Pour être admise au centre de soins, la personne doit souffrir d'une maladie incurable et avoir reçu un pronostic de 3 mois ou moins à vivre, raconte René. La durée moyenne d'un séjour ici est d'environ 29 jours. Dans la majorité des cas, on constate une amélioration de l'état général des gens pendant quelques jours. Certains retrouvent l'appétit avant qu'ils nous quittent. René m'annonce alors qu'il a 2 personnes à me présenter. Voici Coquette et Blanchette, ce sont nos 2 colombes, s'exclame-t-il, fier de sa petite blague. Je me souviens d'un patient en fin de vie qui avait demandé à prendre un bain avec les colombes. Elles venaient se poser sur les rebords de la baignoire. C'est un moment qui m'a beaucoup touché, ajoute-il, les émotions dans la voix, avant d'ajouter que le centre songe à accueillir un chien Mira dans une optique de zoothérapie. L'heure du bain. On m'invite alors à rencontrer l'équipe de soins multidisciplinaires, dirigée par Véronique Després. Achille est acupuncteur. Anne est musicothérapeute. Pascal est préposé au bain thérapeutique. Dr. Krista Lawler est directrice médicale. Camille et Héloïse sont travailleuses sociales et Julie est massothérapeute. La bienveillance et la douceur qui règnent dans la salle m'enveloppent et m'apaisent instantanément. Chaque semaine, on se réunit pour discuter des patients et patientes, de nos stratégies, des services qu'on offre, de comment on peut s'améliorer, raconte la directrice des services multidisciplinaires. Il faut dire qu'on est en constant changement. On a ouvert seulement quelques mois avant la pandémie, qui est venue chambouler notre fonctionnement. Donc on cherche notre air d'aller. Mais on est content et on a de très beaux retours. En écoutant les thérapeutes s'exprimer tour à tour, je me dis que ça doit être tout un défi de prodiguer des soins à des personnes que l'on sait qu'on ne reverra plus, de par leurs conditions irrévocables. Ici, on soulage les symptômes, on enveloppe les gens, on les accompagne jusqu'à la fin. On ne les guérit pas à tout prix. « C'est une toute autre approche du soin », explique Achille Volpi, acupuncteur. « Je trouve ça bouleversant. » Il est 11 heures. Pascal, préposé aux bénéficiaires depuis quelques années, s'avance vers moi. « L'équipe a pensé que ça pourrait être intéressant pour toi de recevoir un bain thérapeutique, comme on donne aux patients en fin de vie. Ça t'intéresse ?» J'accepte volontiers la proposition. Ma foi, hors du commun. On lit présentement « Maison Saint-Raphaël », une maison de vie, pas une maison de mort. Un texte de Laïma A. Gérald, paru le 1er avril 2022 dans le magazine Urbania. J'entre dans une petite pièce peinte en bleu qui ressemble à une salle de soins typique d'un spa. Au fond, j'aperçois ce qui semble être une baignoire. « Tu peux enlever tes vêtements, t'envelopper dans une serviette, et je m'occupe du reste », me dit Pascal, débordante de douceur. « Pour les 30 prochaines minutes, tu n'es pas journaliste, tu vis le moment présent, tu relaxes. » Je m'exécute puis entre dans la baignoire, dont l'une des parois est entr'ouverte. Je m'assois puis allonge mes jambes et incline mon dos, en conservant 2 serviettes sur l'avant de mon corps. Pascal referme la porte de la baignoire et commence à la remplir d'eau chaude. Puis, la préposée aux bénéficiaires active le mécanisme faisant ainsi basculer le réceptacle. Je me retrouve alors en position couchée. C'est une baignoire thérapeutique faite pour les personnes fragilisées, m'explique Pascal, tandis que je suis progressivement immergé dans l'eau chaude. Certaines personnes en fin de vie n'ont pas la force d'entrer dans une baignoire traditionnelle. Le mécanisme de celle-ci rend ça plus facile. puisque l'eau est programmée pour ne pas dépasser une certaine température, afin de ne pas brûler la peau des patients et patientes fragilisés, Pascale passe régulièrement un jet d'eau chaude sur mes jambes et sur mes épaules, comme elle a l'habitude de le faire. Ça réchauffe et ça détend. « Si tu veux bien, je vais laver ton dos avec une débarbouillette », propose Pascale, après une vingtaine de minutes de relaxation dans le bain à remous. J'accepte sa proposition, tant qu'à m'être rendu jusque-là. La préposée redresse mon dos et s'exécute. Il y a quelque chose d'étrange, mais de profondément enveloppant, rassurant, voire régressif dans ce que je suis en train de vivre. La dernière fois que l'on m'a donné un bain, j'étais une enfant. Je demande à Pascale, qui se charge des bains tous les lundis, ce qu'elle préfère dans son métier. Le côté humain, assurément. C'est précieux de pouvoir prendre soin des gens, d'adoucir les derniers moments de leur vie, me répond Pascale, en ajoutant que les proches aidants et aidantes et les personnes endeuillées peuvent aussi profiter du bain, sans pour autant être accompagnés par une préposée. Ici, les gens peuvent se déposer. Ils n'ont pas besoin d'être forts, ni pour eux-mêmes, ni pour leurs proches. Ils peuvent déposer leur masque, être dans l'authenticité pure. Un moment d'authenticité de pure humanité, c'est précisément ce que m'a fait vivre Pascale. Je vais me souvenir de cette expérience longtemps. Je n'aurais pas pu être plus immergé dans mon sujet, ça, c'est certain. Souffle de vie. C'est l'heure du dîner à la maison Saint-Raphaël. Je retrouve Luc et son acolyte Guy, chargés de servir les repas aux invités du centre de jour. Je me porte volontaire pour leur donner un coup de main et j'en profite pour leur piquer une petite jasette. Je suis bénévole ici depuis 1 an et demi, raconte Luc, les yeux toujours aussi vifs que ce matin. Moi, ça fait seulement 1 mois, ajoute le tout aussi sympathique Guy, un plateau repas à la main. Les deux retraités, qui s'impliquent surtout à l'accueil et au service de repas, ont suivi une formation avant de devenir bénévoles. C'est très gratifiant et on finit par connaître les gens, me confie Luc en m'indiquant vers quelle table me diriger avec les repas qu'il me tend. Les gens ont souvent l'impression qu'un centre de soins palliatifs est un endroit déprimant, mais c'est exactement le contraire. Tout est dans le sourire et la bienveillance ici. On m'indique d'ailleurs que la maison Saint-Raphaël est à la recherche d'huile de coude. On est une équipe d'environ 75 bénévoles en ce moment, me disent Luc et Guy. On travaille souvent en équipe, parfois avec des employés du centre. C'est très agréable. Je me dirige vers une table au centre de la salle à manger, occupée par ce que je devine être un père et ses filles. Ma mère est décédée ici il y a quelques semaines, me confie la jeune femme d'une vingtaine d'années. Avec mon père, on est inscrit à plusieurs programmes pour les personnes endeuillées. Ça nous aide vraiment beaucoup. Dans la salle à manger, une dizaine de duos d'âge varié mangent ensemble. Si je ne savais pas où je me trouvais, je ne l'aurais jamais deviné, tant l'ambiance est conviviale. Luc a raison, c'est loin d'être déprimant ici. Namasté. C'est maintenant l'heure de la classe de yoga sur chaise à laquelle on m'a convié. Toutes les personnes qui suivent le cours ont donné leur accord pour que j'y participe. Je me sens vraiment privilégié d'être là. Annie Courtecuisse, la prof de yoga, ainsi que 5 femmes sont présentes, chacune assise sur une chaise, les pieds sur des blocs de mousse rose. Je fais comme elle. Je ne sais pas qui est une personne malade, une proche aidante ou une personne endeuillée. Mais qu'importe, tout le monde est ici pour vivre un moment d'introspection, un temps d'arrêt, un instant de calme. Moi y comprise. Namasté. L'heure de yoga se déroule dans la douceur. Dans la salle, il y a quelque chose de plus harmonieux que quand je suis entré. Comme si un poids invisible qui pesait sur les épaules de ces femmes s'était allégé. Un petit peu, au moins. C'est très important pour les personnes qui vivent ce genre d'épreuve de s'accorder des temps d'arrêt, fait valoir Annie, avant de me confier que son époux a rendu son dernier souffle entre les murs de la maison Saint-Raphaël. Mon mari et moi avons tellement reçu ici, j'ai envie de redonner, de contribuer à envelopper les gens qui y sont de passage. Ce n'est pas une maison de mort ici, c'est une maison de vie. Tout est orienté vers la vie. Je confie à Annie que justement, depuis ce matin, le mot qui m'habite le plus est « enveloppé ». C'est exactement ça. Il y a quelque chose de profondément enveloppant en ces murs. Je quitte la maison Saint-Raphaël vers 15 heures, bouleversé et inspiré par la mission de cet endroit essentiel. Je prends alors conscience que, pendant ces quelques heures, le mot « vie » a été prononcé nettement plus souvent que le mot « mort ». Des mots de René Fréchette me reviennent en mémoire. « Quand les gens arrivent chez nous, ils ont accepté la mort. Ils ne cherchent plus à la combattre. Notre rôle, c'est donc de faire tout ce qu'on peut pour chérir ce qu'il reste de la vie. » Dehors, la pluie a cessé. Une fine lumière traverse doucement les nuages. Je suis persuadé que quelques rayons enveloppants entrent dans la chambre de la dame au foulard bleu. Site web de la Maison Saint-Raphaël, maisonsaintraphaël.org, maisonsaintraphael.org. C'était Maison Saint-Raphaël, une maison de vie, pas une maison de mort. Un texte de Laïma à Gérald, paru le 1er avril 2022 dans le magazine Urbania.
Les aphrodisiaques, une arnaque? Un texte de Billy F., paru le 11 février 2022 dans le magazine Urbania. Depuis le tout début de la civilisation, les humains, à travers l'histoire et les cultures, ont démontré une propension à se faire avoir par trois promesses, celle de la richesse, de la jeunesse éternelle et de la fertilité. La dernière étant infiniment plus facile à obtenir que les deux autres, c'est probablement celle où les outils pour l'atteindre ont été le mieux catalogués. Entre autres, les aliments et boissons toniques, censés faire de nous de meilleurs amants-amantes, nous ont toujours fascinés. Regroupés dans une catégorie alimentaire appelée les aphrodisiaques, en honneur d'Aphrodite, déesse grecque de l'amour, ces produits sont recommandés depuis toujours pour favoriser la fertilité, augmenter la libido et améliorer les prouesses sexuelles. De la Chine antique aux Incas, en passant par l'Afrique subsaharienne et les pays nordiques, toutes les sociétés ont considéré que certains aliments avaient des propriétés aphrodisiaques, avec des degrés variant d'efficacité. Comment mon repas peut-il me rendre libidineux? Si pendant longtemps il fallait se baser sur des observations empiriques ou des assomptions, on en sait maintenant plus que jamais sur notre santé reproductive. On n'a donc plus besoin d'essayer plein d'aliments bizarres pour voir si l'orgasme sera plus intense. Plus un aliment ressemble à nos organes reproductifs, plus on l'associe avec une vigueur sexuelle parce que nos cerveaux simplifient les choses comme ça. Une banane? Forcément, ça doit aider. Idem pour l'huître, aka la wap des mers. Elle est beaucoup trop sexuellement évocatrice à nos yeux pour ne pas avoir d'effet aphrodisiaque. Historiquement, dans le monde occidental, le degré d'efficacité aphrodisiaque d'un aliment était associé à sa rareté. Caviar, foie gras, asperges fraîches et truffes en particulier sont vus comme des marqueurs de prestige, ce qui leur confère une sensualité intrinsèque. C'est peut-être en partie ce qui explique qu'on les retrouve si souvent sur les cartes des grands restaurants à la française, dont le but ultime est que chaque jour soit la Saint-Valentin chez eux. Sexe et religion. D'ailleurs, on pourrait penser que l'emprise religieuse conservatrice et autoritaire sur l'Europe médiévale aurait proscrit le recours aux aphrodisiaques. Mais les premiers érudits de la médecine moderne savaient déjà ce que n'importe quelle femme aurait pu confirmer. Le plaisir de la femme au lit est tout aussi important que celui de l'homme lorsque vient le temps de se reproduire. Bien entendu, une grossesse peut avoir lieu sans que la femme ait nécessairement trouvé son plaisir durant le coït, mais comme le supposait le médecin et astrologue néerlandais Levinus Lemnius, le fruit d'un tel accouplement en ressortirait paresseux et stupide. Devant ce constat et la croyance que des sorcières s'attaquaient au pouvoir reproductif des hommes, les aphrodisiaques étaient prescrits aux couples mariés. Ce qu'on sait qui fonctionne. Avec le temps, on a appris à comprendre pourquoi, en effet, certains aliments avaient des propriétés aphrodisiaques. Par exemple, on sait que l'acide aminé L-arginine, que l'on retrouve dans la viande, les produits laitiers ou encore les noix et graines, se transforme en oxyde nitrique dans le corps, ce qui favorise la circulation sanguine. La quercitrine, grâce à ses effets anti-inflammatoires, peut aussi être un allié au lit, donc gâtez-vous dans les pommes, les baies, le vin, le chocolat et l'ail. Des produits plus exotiques aussi sont réputés pour les prouesses qu'ils offrent. Dans la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, on sait depuis longtemps que le ginseng et le gingembre confèrent vigueur au couple. Mais on ne peut pas passer à côté du célèbre pénis de tigre, plus souvent du pénis de bœuf, servi dans une soupe ou séché, puis conservé dans du cognac ou du vin, et bu en shooter avant de passer à l'acte. Mon préféré, bien que je n'en ai jamais tenté l'expérience, doit être la fleur des elfes, une plante endémique à l'Asie, que l'on appelle en anglais « horny goat weed », soit l'herbe de la chèvre en chaleur. Vian aurait trippé. Une autre industrie de l'arnaque? C'est malheureusement la partie de l'article où je dois nous ramener sur Terre pour que l'on n'oublie pas que le sexe n'est pas une science exacte et qu'aucun aliment conçu par la nature n'a été mis là pour assurer aux animaux que nous sommes des orgasmes d'ontologie. Ou plutôt, peut-être qu'ils ont tous été mis là pour ça. Dans le sens où tout ce que nous mangeons sert à alimenter notre corps pour qu'il soit capable de performer certaines fonctions, dont l'acte sexuel, ou même simplement d'être émoustillé à l'idée de rapprochement. Mais l'efficacité des aliments comme supplément sexuel ou booster de libido est ces jours-ci contestée par plusieurs expertes. Comme le résume Nan Wise, psychothérapeute et chercheuse à l'université Rutgers au New Jersey, le désir est physique, psychosocial et relationnel, ce qui implique beaucoup de variables. Si l'on croit qu'un aliment peut accroître le désir, la psychologie de l'effet placebo affecte notre capacité à être sexuellement excité ou non. Si vous passez beaucoup de temps sur Internet, vous savez déjà que les humains peuvent être hautement déviants et peuvent devenir « horny » à propos de n'importe quoi. La bouffe n'y échappe pas. La fraise n'est pas nécessairement l'aphrodisiaque, c'est plutôt la main de la personne qui l'a trempée dans le chocolat avant de la mettre dans votre bouche qui l'est. La science confirme d'ailleurs qu'il y a un effet aphrodisiaque dans le simple fait de nourrir. On ne peut donc pas vous promettre que votre repas romantique sera plus torride parce que vous y aurez inclus un max de soi-disant aphrodisiaque, pas plus qu'on peut vous promettre la richesse ou la jeunesse éternelle. Mais qui a besoin de ça quand nos ventres sont pleins et nos pulsions assouvies? C'était « Les aphrodisiaques, une arnaque ?» un texte de Billy F. paru le 11 février 2022 dans le magazine Urbania.
Cinq tendances culinaires à surveiller en 2023. Un texte de Mélodie Lamoureux paru le 15 décembre 2022 dans le magazine Coup de pouce. Qui dit nouvelle année dit nouveauté dans nos assiettes. Certains aliments risquent de gagner en popularité et certaines habitudes alimentaires risquent de faire un 360 degrés complet. Voici donc les cinq tendances bouffe à surveiller en 2023. 1. Le sans-alcool. De plus en plus de gens diminuent leur consommation d'alcool, et tout porte à croire qu'en 2023, la tendance sera plus forte que jamais. Non seulement c'est une excellente nouvelle pour votre corps et votre santé, mais aussi pour votre portefeuille. L'alcool peut parfois coûter cher et avec l'inflation, on risque d'investir davantage sur les aliments. De plus, de délicieuses options sans alcool sont désormais disponibles sur le marché. Les soirées de mocktail auront la cote cette année. 2. Les plats économiques. Sans surprise, cette année, les gens seront plus portés à consommer des aliments économiques. On opte pour des viandes en rabais, on épluche les circulaires et on crée des repas à partir d'aliments qu'on connaît moins pour sauver des sous. Ce sera une année difficile sur le budget, mais certainement une belle occasion de découvrir des aliments et de diversifier ce qui se trouve dans notre assiette. 3. Les plats végétariens. Depuis quelques années déjà, les plats végétariens s'imposent dans nos cuisines et nous proposent de belles options santé et plein de légumes. En 2023, la tendance ne dérougira pas. On essaie des recettes de dessert avec des légumineuses, comme des brownies aux haricots blancs, pour sustenter son envie de sucrer en après-midi. 4. Les champignons. Oui, il y a les champignons de Paris, mais il y en a d'autres aussi. Cette année, on redécouvre les champignons et leur vaste éventail. Ces derniers peuvent être apprêtés de mille et une façons et sauront certainement se glisser dans une foule de plats plus savoureux les uns que les autres. 5. Manger intuitivement. Bye bye les restrictions. En 2023, on se connecte à ce que notre corps veut réellement et à ses besoins. On lui donne des vitamines, des protéines et tout ce dont il a besoin pour fonctionner, sans se priver. On se permet de dévorer un sac de croustilles sans culpabiliser et surtout, on ne passe plus de commentaires sur le poids des gens qui nous entourent. Cette année, on s'offre encore une relation saine avec la nourriture. C'était 5 tendances culinaires surveillées en 2023. Un texte de Mélodie Lamoureux paru le 15 décembre 2022 dans le magazine Coup de pouce.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau et Jocelyne Langevin à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.